dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'Europe, une union incertaine. On en parle avec notre invité. Invité britannique de la Grande Table aujourd'hui, Yann Kershaw, grand historien du nazisme, auteur en cette rentrée de l'âge global, Europe de 1950 à nos jours, qui paraît au seuil. C'est le deuxième volume d'une vaste entreprise entamée avec l'Europe en enfer, qui couvrait la période des deux guerres de 1914 à 1949.
Premier pas vers une union occidentale au Palais des Académies à Bruxelles, cinq nations de l'Ouest européen viennent de signer un pacte qui resserre leurs liens économiques et défensifs. Monsieur Bevin, après Monsieur Spaak et ses amis du Benelux, signait, immédiatement suivi du représentant de la France, ce traité d'alliance dont Monsieur Bideau a pu dire « Ni la ruse ni la violence n'ont inspiré notre décision. Ce que nous signons est la pierre angulaire de la construction européenne. »
Voilà, nous sommes donc maintenant au lendemain du traité de Bruxelles. S'ouvre cette deuxième période à laquelle notre historien va consacrer un deuxième volume de cette monumentale histoire de l'Europe. Aujourd'hui, vous reprenez donc le fil de l'histoire européenne des 70 dernières années. Mélange grisant de grandes réalisations, écrivez-vous, de graves déceptions, voire de désastres. Bonjour Yann Kershaw. Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour à votre voix française, Marguerite Capel, bonjour.
Bonjour.
Difficile de résumer un demi-siècle en deux mots, de trouver la bonne couleur. Pour le premier volume, vous aviez choisi le rouge, celui de l'enfer des guerres. Et pour le deuxième, quelle est la marque, la tonalité de cet âge global ?
Eh bien, je pense que la couleur, la teinte serait une sorte de gris. Ou peut-être un damier, il y aurait des couleurs très foncées et des couleurs très claires.
C'est vrai que la photo que vous en proposez est une photo plus trouble, plus inquiète que la première image qu'on en a habituellement de cette Europe post-Seconde Guerre mondiale. On met souvent en avant la construction européenne, l'Union européenne qui a permis la paix au sein du continent au lendemain de ces deux guerres. Mais c'est une photographie, je le disais, plus grise, plus trouble que vous nous présentez ici. Ce n'est pas la somme des histoires nationales que j'ai rassemblées en une synthèse, mais une vue globale. C'est un travail d'historien que vous avez mené pour cerner les contours de l'Europe actuelle avec un regard prospectif. Comment en sommes-nous arrivés là? Et que présagent les transformations de l'Europe? Cette double question, c'est elle qui vous a guidé lors de vos recherches. Comprendre comment on en est arrivé là et où est-ce qu'on va?
Oui, d'une certaine manière, ça doit être l'objectif de tout travail d'histoire moderne, mieux comprendre le présent. Ce n'est pas l'histoire d'il y a longtemps que je raconte, mais en fait, comment notre propre monde a évolué. Et il devient plutôt plus complexe que moins à l'issue de ces sept décennies qui se sont déroulées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, ce que vous avez découvert, ce que vous avez acquis après tous ces travaux, ce ne sont pas des certitudes, mais beaucoup d'incertitudes.
I think the end of the
Je crois que la fin du rideau de fer, la chute du rideau de fer et la fin de la guerre froide a entraîné plutôt que davantage de simplicité, ce qu'on croyait en 1990, en fait, ça a entraîné davantage de complexité. Notre monde aujourd'hui est moins simple qu'il ne l'était dans les années 50-60. Et les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont complètement différents, sont à des niveaux d'insécurité complètement différents. À l'époque, il y avait la grande insécurité posée par la menace d'une guerre nucléaire. Aujourd'hui, nous voyons différents degrés d'insécurité. Insécurité socio-économique, de même que les menaces mondiales auxquelles nous sommes confrontés.
But at the same time, of course, we have had
great
achievements.
Et dans le même temps, nous avons aussi des grandes réussites qui ont changé notre continent pour le mieux.
Qu'avez-vous vraiment découvert? Vous dites quand même, en entreprenant encore ce travail, qu'il restait des zones d'ombre dans ces dernières décennies. Quelles ont été les surprises pour vous, l'historien Yann Kershaw?
One of the Eh
bien, l'une des principales surprises, je crois, c'est
à
quel point la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste, qui étaient vraiment au cœur de cette guerre, à quel point elles jouaient peu dans la conscience sociale, dans la conscience du public, dans les décennies qui ont suivi immédiatement la guerre, alors que ces événements sont devenus beaucoup plus importants dans notre manière de penser à la fin du XXe siècle.
Nous voyons plus clairement aujourd'hui
que dans les années 50 ou 60 à quel point la Seconde Guerre mondiale était vraiment la phase cruciale, le moment crucial de l'histoire du XXe siècle.
En 12 chapitres, vous revenez d'abord sur l'immédiate après-guerre et la période d'insécurité qui s'ensuit, la constitution aussi des blocs Est-Ouest, les conflits nés de la décolonisation, le boom économique et culturel de l'Europe. Vient ensuite le temps de la contestation, 68 à l'Ouest, le vent de la révolte à l'Est, Gorbatchev, les crises pétrolières aussi des années 70, 73 et 79, la chute du mur de Berlin et celle du rideau de fer, la guerre des Balkans et enfin le retour de l'instabilité avec la crise économique de 2008 et le terrorisme. Cette Europe, l'Europe, vous diriez que c'est un continent, une union qui s'est définie par lui-même ou aussi souvent en comparaison avec les autres puissances?
It's defined itself,
elle s'est définie par elle-même,
really, on its own,
au départ,
though with a dependency on the two
mais toujours avec une dépendance à deux superpuissances.
What then became the European Community and the European
la
Union
communauté européenne, l'Union européenne, c'était quelque chose qui a été imaginé et qui émergeait directement de l'histoire européenne. Mais comme le temps passait, le continent européen a commencé évidemment à être exposé bien davantage aux forces de la mondialisation. Et se définit maintenant bien davantage en réaction par rapport à ce qui vient de l'extérieur, les menaces.
Sommet de Paris, le sommet européen de Paris, on est en octobre 1972. Je vous propose d'écouter les mots de ce commentateur de l'ORTF à cette période-là, qui campe l'Europe comme une puissance en devenir, voire la première puissance commerciale du monde.
Voilà, les peuples ont fait leur choix. Et le 19 octobre à Paris, les neuf peuvent maintenant prendre conscience de leur nouvelle force. Une Europe de 250 millions d'habitants, plus peuplée que les États-Unis et l'Union soviétique. La première puissance commerciale du monde, mais à condition de parler d'une seule voix, face à la puissance économique et monétaire des États-Unis, face à l'inflation, face à l'URSS, qui veut organiser à sa manière la sécurité européenne. On pouvait craindre que ce sommet ne fût qu'une fête de famille, ponctuée de beaux discours. Pourtant, sous la présidence de M. Pompidou, les neuf chefs d'État et de gouvernement rejettent la querelle des institutions et travaillent dans le concret, et cela en dépit de leurs soucis électoraux. Création d'une Union européenne d'ici à 1980 dotée de sa propre monnaie. Création d'un fonds de coopération monétaire, coordination de la lutte contre l'inflation, fonds spécial pour l'aide aux régions défavorisées, politique commune de l'emploi et de la formation professionnelle, autant de décisions qui, dans les années à venir, vont modifier la vie de chaque Européen. Enfin, une préoccupation nouvelle retient l'attention des neuf, la qualité de la vie, de notre vie. Selon la formule du président Pompidou, l'Europe doit être au service des hommes et pas seulement des marchands.
Ça, c'était le rêve au cœur du projet, au cœur de la construction européenne et de cet élargissement qu'on actait à ce moment-là au cours de ce sommet européen de Paris en 1972. Vous parleriez aujourd'hui d'un rêve déçu.
That speech was given
ce discours at
the final point of the
a
initial
été livré
European
peut-être à la toute fin du moment de l'enthousiasme européen, de l'optimisme. Dans l'année qui a suivi, on a eu le crash pétrolier et l'Europe s'est retrouvée confrontée à de nouvelles difficultés qui ont entraîné des changements majeurs au sein du continent. Donc, est-ce que ce rêve a été réalisé? D'une certaine manière, le rêve des premiers pères fondateurs de l'Europe s'est réalisé. L'objectif initial de Jean Monnet et de Robert Schuman c'était d'empêcher qu'il n'y ait jamais une guerre en Europe à nouveau. Et ça a apporté beaucoup de prospérité à l'Europe aussi. Ces deux éléments-là ont été réalisés. Mais bien sûr, par la suite, dans les décennies qui se sont déroulées depuis, on a vu que certains problèmes se sont aggravés plutôt que de se résoudre. Et on a vu aussi que les espoirs d'unité en Europe, qu'on entendait encore en 1990, à la fin de la guerre froide, ces rêves-là ne se sont pas réalisés. Il y a eu des déceptions, aussi bien que de grandes réussites.
Quels sont les principaux problèmes qui se sont aggravés pour vous et qui les a provoqués ou qui n'a pas su les empêcher ?
Le principal changement, ça a été la fin d'une période de croissance économique sans précédent depuis la fin de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, pardon, et qui s'est achevée en 1973, avec les guerres arabo-israéliennes et l'impact des crises pétrolières, de l'embargo qui a suivi. Tout ça a entraîné des changements économiques majeurs. La croissance n'était plus la même et tous les pays d'Europe ont été confrontés à des problématiques de montée du chômage, une inflation extrêmement rapide, et les gouvernements ont dû développer de nouvelles stratégies économiques pour faire face à ces problèmes sans précédent. Et je pense que c'est le début d'un changement qui s'est ensuite manifesté au cours des décennies suivantes.
Oui, l'Europe a essayé de se constituer comme une puissance et de se protéger, mais vous montrez aussi à quel point la mondialisation, qui a ouvert la voie, écrivez-vous, au turbo-capitalisme, a balayé de vents contraires ce continent et cette puissance en construction.
L'Europe se considérait comme dans ce discours que nous venons d'entendre comme un acteur économique majeur, une puissance. La réalité, dans la deuxième partie du XXe siècle en particulier, c'est que d'un point de vue relatif, l'économie européenne était plutôt en déclin. Il y a quand même de la croissance, bien sûr, mais de façon relative par rapport aux autres régions du monde, l'Europe s'est ralentie. Donc c'est un déclin économique et le poids politique est également en déclin, en particulier depuis la fin de la guerre froide. On le voit notamment avec l'émergence de nouvelles puissances comme la Chine, l'Inde, qui en termes relatifs, là aussi marque le déclin de l'Europe, confrontée à des problématiques face à des grandes puissances maintenant, la Chine, la Russie, les États-Unis, mais aussi des puissances émergentes comme l'Inde. Et on voit bien que la puissance européenne est très diminuée à beaucoup d'égards.
Après coup, quand vous regardez le fil de ces 70 dernières années, quelles ont été les personnalités européennes décisives dans le cours de cette histoire ?
Dans cette période de 70 ans, les personnalités au début étaient des gens comme Jean Monnet que j'ai mentionné avec sa vision de l'Europe, Adenauer, le chancelier d'Allemagne de l'Ouest, qui a joué un rôle clé dans l'intégration de l'Allemagne de l'Ouest dans l'Europe occidentale et l'Occident en général. Par la suite, bien sûr, dans ce pays, de Gaulle a joué un rôle important dans les années 50, au début des années 60. Mais je pense que les personnalités clés de la dernière partie du XXe siècle seraient plutôt Thatcher, Madame Thatcher, Helmut Kohl, et bien sûr, par-dessus tout, Gorbatchev. S'il y a une personnalité vraiment qui se détache pour l'impact qu'il a eu dans la deuxième partie du XXe siècle, pas uniquement dans l'Union soviétique, et pas uniquement en Europe, mais au niveau mondial, c'est Mikhail Gorbatchev.
Effectivement, et vous lui accordez de longs passages. Pourquoi ? Pourquoi lui ? En quoi est-ce qu'il a été un marqueur de ces années-là ?
Gorbatchev came to power in the Soviet
Union. Gorbatchev est arrivé au pouvoir dans l'Union soviétique.
Particular time where the Soviet, as we see
bien particulière,
in retrospect, there were
major structural weaknesses in the Soviet economy. Il y a eu énormément de changements structurels majeurs dans l'économie soviétique, etc.
Relatively young leader,
il était relativement jeune.
Then, brought new vitality, new dynamism.
Il a apporté une nouvelle dynamique, une nouvelle vitalité.
But he rapidly came to the conclusion.
Mais rapidement, il est arrivé à la conclusion. Que pour changer les structures économiques et modifier et lutter contre les faiblesses économiques de l'Union soviétique, il devait aussi changer les structures politiques. Et en très peu de temps,
Gorbatchev,
qui voulait réformer l'Union soviétique,
avait
commencé à lancer des changements qui allaient détruire cette Union soviétique. Et en la détruisant, il a mis un terme à la guerre froide.
Mais aussi, change then in
il a entraîné
Central
des changements
Europe,
majeurs en Europe centrale,
Union, now free to go their own
avec
way.
La décentralisation de l'Union soviétique et la liberté accordée à ses pays membres.
So in that particular constellation, then, that
dans
the individual
cette situation,
Gorbachev
ce contexte bien particulier, l'individu, la personne Gorbatchev, a joué un rôle personnel extrêmement significatif.
Mais la chute du mur de Berlin et la chute du rideau de fer a aussi créé de nouveaux clivages, là où les deux parties de l'Europe, les deux blocs, devaient se réunifier. De nouveaux clivages sont apparus. Est-ce qu'ils sont pour vous, Yann Kershaw, aujourd'hui, avant tout économiques et sociaux, ces clivages, cette fracture, ou culturelle?
Des nouvelles divisions, bien sûr, sont apparues
suite
à la fin de la guerre froide. Pour une grande partie de l'Europe de l'Est et du Centre, les années 90 ont été une période extrêmement difficile. L'économie a été modifiée extrêmement rapidement pour passer d'une économie d'État nationalisée à une économie de marché capitaliste. Il y a eu beaucoup de souffrances. Énormément de chômage et d'angoisse économique à cette époque-là. Mais à la fin des années 90, la plupart de ces pays étaient en train de reprendre des forces et de s'intégrer. Ça avait toujours été les parties les plus faibles d'un point de vue économique du continent européen, et ça a continué, même après la fin du communisme. Donc beaucoup de problèmes qu'on a vus par la suite étaient le miroir de ces privations, perçues de ces désavantages, perçues de cette partie du continent par rapport à l'Ouest censé être plus riche. Quand on observe les choses aujourd'hui, on voit que l'Union européenne est toujours principalement dirigée par les puissances de l'Ouest qui l'ont créée au départ.
Oui, justement, l'Allemagne, qui est une fois encore au cœur de ce volume, Yann Kershaw, L'âge global, dans l'Europe en enfer, la première partie de votre histoire européenne, vous mettiez l'accent sur la responsabilité particulière de l'Allemagne dans le premier conflit mondial. Aujourd'hui, vous montrez l'Allemagne dans ses 70 dernières années comme une force apaisée, vectrice de paix, comme une force motrice de l'Europe. Va-t-elle continuer, selon vous, l'Allemagne, à tenir ce rôle-là à l'avenir ?
Oui, comme vous l'avez dit,
l'Allemagne a été au cœur de ces deux tomes.
Et
c'est tout à fait justifié, je pense, parce que dans le premier, évidemment, le rôle de l'Allemagne dans les deux premières guerres mondiales, on n'a pas besoin d'insister là-dessus, mais l'Allemagne a été aussi au cœur de la reconstruction européenne. Et pour le meilleur, principalement. Le rôle allemand a été très positif et très puissant dans l'intégration européenne. Bien sûr, les éléments principaux, les points clés de cette reconstruction, c'était le rapprochement entre l'Allemagne de l'Ouest à l'époque et la France, et après les années 90, après 1990, avec l'Allemagne réunifiée, évidemment. Donc l'Allemagne a joué un rôle crucial. On peut aussi, bien sûr, analyser le rôle joué suite à la crise financière
Germany played perhaps a more played a role which could be more easily criticized,
but in general terms,
I think Germany has been a force for good in
the new Europe. L'Allemagne a plutôt été une force positive en Europe.
Oui, là où certains estiment qu'elle a encore cet élan, cette envie de domination aussi sur ses partenaires. Hein.
No, I don't think there's any threat from Germany.
Je ne crois pas qu'il y ait une quelconque menace à voir en Allemagne.
Germany has been this reluctant leader of Europe,
elle
as
a
it
été
turned out over the last
le leader plutôt
years.
Réticent de l'Europe au cours des 50 dernières années.
Germany, in many respects, is
en particulier ces 20 dernières années.
The most internationalist and the most
c'est le pays le plus internationaliste, le plus pacifiste de tous les principaux pays européens.
Comparé
au mien,
je
considère l'Allemagne comme une force beaucoup plus positive.
I don't think there's any threat.
Et je ne crois pas qu'il y ait de menace à craindre de l'Allemagne. Du point de vue économique, la domination économique allemande, bien sûr, au sein de l'Union européenne, doit être contrebalancée. Je pense que le rôle joué par Angela Merkel, en reprenant l'héritage d'Helmut Kohl, était de développer le rôle de l'Allemagne dans l'Europe et non pas comme outsider à l'Union européenne.
Vous montrez, Yann Kershaw, comment à plusieurs moments clés de l'histoire de ces 70 dernières années, l'art du compromis a prévalu en Europe et a permis de résoudre des tensions ou des conflits qui auraient pu s'aggraver. On vit mieux ensemble que séparément. C'est cette certitude qui était au cœur du projet communautaire, du projet européen. Et c'est aussi la leçon que chacun a tirée des deux guerres mondiales qui ont ponctué le siècle dernier, qui l'ont fracturé aussi le continent. Est-ce que cette certitude, on vit mieux ensemble que séparément, est en train de s'effriter pour vous aujourd'hui? Et vous évoquiez votre pays. Est-ce qu'il n'en est pas la preuve à l'appui de la Grande-Bretagne?
Well, I think you're absolutely right.
Je crois que vous avez tout à fait raison.
The coming together of the countries of
Europe. Le rassemblement de ces pays qui se sont associés en Europe dans la communauté européenne a été au cœur du maintien de la paix sur le continent. Et l'Union européenne a été décrite comme une grande usine à compromis. Et le compromis a toujours été au cœur de ce qui s'y passe. Et ce sera encore le cas à l'avenir, je pense. Bien sûr, le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne est, pour moi, à titre personnel, source d'énormes regrets. Je pense que les intérêts britanniques seraient mieux protégés en restant dans l'Union européenne. Mais le départ de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni fera plus de mal au Royaume-Uni qu'à l'Union européenne. Et je pense que l'Union européenne est assez forte pour développer des possibilités de coopération entre les 27 autres pays. Et que l'Union européenne continuera à s'épanouir malgré les problèmes posés par le départ des Anglais.
C'est un départ qui s'inscrit dans le cours de l'histoire européenne.
Le départ de la Grande-Bretagne
est une
suite d'un cours de l'histoire un peu unique, en fait. Quand on remonte aux années 50, dans l'histoire britannique, on voit dans les années 50-60 que les mêmes arguments qui refont surface aujourd'hui dans le débat sur le Brexit existaient déjà. Et je pense que ça a été un très long chemin pour arriver au Brexit. Et en même temps, c'est aussi un chemin très court. Au cours des dernières années, où ces mêmes problèmes ont été exagérés très rapidement par une minorité pour faire quitter l'Union européenne.
L'Europe, aujourd'hui, est le produit de cette histoire avec des forces qui la dominent. Après des décennies favorables à la social-démocratie, comment expliquer le retour des souverainismes et du protectionnisme? Il était l'un des intellectuels eurosceptiques, plutôt pourfendeur du multiculturalisme et partisan président du Brexit important. Chez vous, le philosophe britannique conservateur Roger Scruton, dont on a appris le décès ce dimanche. Il était aussi en avril dernier l'invité de notre semaine européenne, veille des élections, pour son ouvrage « L'erreur et l'orgueil » paru chez l'Artilleur. Celui qui était aussi membre de la British Academy revendiquait encore et toujours la nécessité d'une Europe constituée de nations souveraines. Et il fustigeait aussi le manque d'imagination de nos élites. Écoutez.
Non, je ne suis pas en faveur de la dissolution de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une chose extrêmement précieuse et utile. C'est un système de coordination pour les peuples européens. Mais je suis néanmoins d'accord avec De Gaulle pour dire que nous ne devons pas renoncer pour autant à la souveraineté nationale. Et l'élite européenne a été forgée par le système existant. Et cette élite n'a pas suffisamment d'imagination pour trouver un autre système. Bien que c'est assez évident que lorsque l'on regarde la Grèce, l'Italie ou la Grande-Bretagne, il est évident qu'il faut faire quelque chose. Mais cette élite n'en est pas capable.
Voilà, il acte l'échec du projet communautaire avec le rôle joué par les élites européennes. Vous étiez parfois d'accord avec lui, Yann Kershaw?
Je ne suis pas en accord avec Roger Scruton de façon générale. L'interprétation qu'il met en avant est assez caractéristique d'une certaine branche du conservatisme britannique qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui refait surface de temps à autre et qui domine particulièrement depuis quelques années.
Until then, all sorts of leading politicians, including,
for example, Winston Churchill,
were prepared to accept some diminution of sovereignty.
Étaient prêts à accepter une baisse de la souveraineté pour atteindre un plus haut niveau d'intégration.
That would be my position too.
Et ça, ce serait plutôt ma position.
It's necessary to accept this.
Je pense qu'il est nécessaire d'accepter ce degré de souveraineté légèrement diminué pour obtenir le bien le plus important. Pourtant, l'avantage le plus important, qui est l'unification de l'Europe. Mais le conservatisme britannique en particulier, on a toujours mis en avant la nécessité de contrôler nos propres décisions, etc. Et ça domine en particulier le débat depuis quelques années, cette façon de penser.
Merci beaucoup à vous, Yann Kershaw. Émission un peu plus courte que d'habitude, car comme un jeudi sur deux, il est l'heure pour vous de retrouver le rendez-vous de la médiatrice. Yann Kershaw, L'âge global, l'Europe de 1950 à nos jours. Le deuxième volume de votre histoire de l'Europe vient de paraître au Seuil. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Tout de suite, Emmanuel Davier avec Frédéric Barrère, directeur de la rédaction de France Culture. Il est 13h23.
Le rendez-vous de la médiatrice. Frédéric Barrère, bonjour.
Bonjour Emmanuel Davier.
On commence avec ce message. Lors des obsèques du général Soleimani, on entend dans le reportage de votre correspondant en Iran une femme accompagnée de ses enfants. Elle déclare « Je suis venue avec eux car ils sont la génération qui détruira Israël ». J'ai été très choquée, nous dit cet auditeur, par ce témoignage et par le fait qu'il ait été diffusé. Je ne suis pas juif, pas antisémite, mais extrêmement critique par rapport à la politique menée par Israël dans les territoires occupés. Je suis tout autant critique par rapport à la politique de Donald Trump vis-à-vis de l'Iran et par rapport à la politique iranienne qui cherche à renforcer son influence en Irak et à maintenir celle qu'il a au Liban à travers le Hezbollah. Pourquoi diffuser le message extrêmement violent d'une femme, d'une mère, sans chercher à savoir si son opinion radicale est partagée par une partie de la population? Pourquoi diffuser un message qui met en jeu Israël, qui n'est pas directement impliqué dans l'événement couvert? Alors, Frédéric Barrère, que répondez-vous à ce long message de votre auditeur?
Écoutez, c'est vrai, il s'agit de propos violents, de paroles qui peuvent choquer. Maintenant, ce son, ce qu'on appelle un son, c'est-à-dire la parole de cette mère de famille iranienne, n'a pas été diffusée comme ça toute seule au milieu de la page Moyen-Orient du journal. C'est un élément inclus dans le reportage de notre envoyé spécial en Iran, qui rappelle le contexte, qui dit qui est cette femme avec ses enfants. Et l'interview a été faite lors d'une manifestation, là encore dans un contexte bien particulier, où la colère, la haine se montre, se voit et se dit. Alors après, quand on couvre un reportage sur un lieu très sensible, comme c'est le cas là, en zone de guerre, lors d'une manifestation avec autant de monde, le journaliste raconte ce qu'il voit, ce qu'il entend, et c'est pour informer de ce qui se passe à ce moment-là, ce jour-là, en Iran. Nous ne sommes pas là pour accentuer une réalité, nous ne sommes pas là pour l'atténuer. Oui, cette zone du monde est violente. Oui, il y a de la haine et c'est un message contre Israël que l'on entend beaucoup et souvent. Mais rappelez-vous l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad qui appelait à rayer Israël de la carte. On l'a dit, on l'a même entendu le dire. Alors oui, ces paroles sont violentes. Oui, je le redis, ça choque, ça peut choquer. Mais c'est la réalité de ce qui se passe en ce moment. Et je crois qu'il ne faut surtout pas tordre la réalité, surtout pas tordre les faits. C'est en étant informé le mieux possible, le plus honnêtement possible, que l'on peut comprendre le monde qui nous entoure et sans doute, après, aller plus loin et mieux appréhender ces événements très violents.
On poursuit avec deux messages sur la sémantique. Votre journaliste a utilisé le mot « assassinat » à propos de la mort de Soleimani. Ce mot exprime un point de vue de votre journaliste sur un personnage peu recommandable. J'aurais préféré le terme plus exact d'élimination. Doit-on pleurer sur la mort de cet homme? Doit-on faire de l'angélisme? Je précise que je n'aime pas Trump. Second message. Aux informations, il est question d'élimination du général Soleimani, de frappe chirurgicale, de liquidation. Pourquoi ce vocabulaire utilisé par des journalistes du service public, ces termes rendent acceptables pour les auditeurs, voire justifient ce qui est de fait un assassinat perpétré en dehors de toute décision de justice? N'ajoutons pas à la confusion ambiante et utilisons la langue française avec le maximum d'objectivité. Alors on a là, avec vos auditeurs, deux points de vue. Quel est, selon vous, Frédéric Barrère, le terme le plus pertinent à utiliser?
Alors Emmanuel, cette question d'abord est très intéressante. Voilà, on essaie d'être très précis et bien sûr elle est évoquée dans nos conférences de rédaction. Moi je pense qu'il faut utiliser le terme d'assassinat ciblé. Alors oui, c'est un terme très contesté, on le voit, ou contestable, mais franchement, en plus le droit international ne nous aide pas trop, il y a un flou. Alors en temps de paix, l'assassinat ciblé ou l'exécution extrajudiciaire est condamnée par le droit international. En temps de guerre, c'est différent. Et là, les États qui utilisent ces pratiques d'assassinat ciblé expliquent qu'ils agissent dans le cadre de la guerre contre le terrorisme et qu'ils se défendent contre une menace imminente. On l'a vu avec le général Soleimani, les États-Unis ont expliqué qu'ils projetaient de tuer les Américains et qu'ils projetaient de s'en prendre à 4 ambassades américaines au Moyen-Orient. Alors beaucoup d'États font cela, hein. Israël, ça arrive souvent en Israël, 2004, Gaza, Sheikh Yassine, tué par un missile israélien en sortant d'une mosquée. Et les États-Unis, bien sûr, avec Donald Trump, mais aussi avec le président Obama qui le justifiait parfaitement. La France aussi, ça a fait un tollé en France avec François Hollande, l'ancien président de la République, qui avait reconnu au moins 4 opérations homo pour homicide. Et il avait été très, très contesté, y compris dans son propre camp. Mais ces deux opérations, voilà, que les États justifient dans la guerre contre le terrorisme.
Alors, un assassinat ciblé, pour reprendre votre terme, relève des services secrets et donc a, par définition, vocation à rester secret. Comment expliquez-vous un tel retentissement médiatique?
C'est vrai, effectivement, en général, les États ont plutôt tendance à rester discrets. Là, ce qui change, c'est Donald Trump sur l'opération visant le général Soleimani. Il tweet avec un drapeau américain, voilà. Puis ensuite, il s'en vante, il l'assume et il l'affirme. Ça avait commencé d'ailleurs avec l'opération visant le patron, le chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi. Trump s'en était également, l'avait assumé fort, de manière violente, en disant qu'il était mort comme un chien, qu'il était mort comme un lâche. Et forcément, les réactions de l'autre côté sont dures, sont violentes également.
Merci Frédéric Barrère.
Merci Emmanuel.
Et merci beaucoup à vous Emmanuel Davier. Les auditeurs peuvent continuer à vous écrire sur le site de Radio France à la médiatrice.